Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Philippe Le Caplain.
Avec Dimanche Politique, le décryptage de la vie politique en France. Ce soir, c'est avec vous, Nicolas Tinzer. Bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, enseignant à Sciences Po, président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Il y a ce titre qui barre aujourd'hui toute la une du journal du dimanche. Vaccin, la colère de Macron et cette exclamation plus vite. Jordan Bardella, qui est le vice-président du RN, dénonce un amateurisme du gouvernement.
Franchement, on est la risée du monde. Ils nous auront tout fait, c'est-à-dire qu'ils auront raté l'étape des masques, ils auront raté l'étape des tests, ils auront raté la maîtrise de nos frontières, ils ont pris des mesures complètement arbitraires pendant des mois et des mois, allant même jusqu'à fermer nos petits commerces pendant 4 semaines pour ensuite dire, finalement, il n'y a aucun risque supplémentaire dans les petits commerces, donc on les rouvre. Maintenant, quand on a vacciné, en 7 jours, 450 personnes, quand des pays de population comparables, comme par exemple l'Allemagne, qui a vacciné déjà 180 000 personnes, franchement, je trouve ça honteux.
Sur RTL, c'était Jordan Bardella qui a contracté le Covid-19 début novembre et qui refuse de dire s'il se ferait lui-même vacciner, alors que les électeurs de son parti sont, selon les sondages, les plus sceptiques quant au vaccin. Un membre du gouvernement, Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports, a répondu aux critiques ce matin sur BFM TV.
On peut être sérieux, ça fait quand même que 6 jours que la politique vaccinale a commencé. On ne fait pas le bilan d'une politique vaccinale 6 jours après le début de la politique vaccinale.
On peut se demander quel est le problème lorsqu'au bout de 6 jours, on a réussi à vacciner que 300 personnes sur un pays de 66 millions d'habitants.
Ah mais justement, je pense qu'il faut raisonner en période de crise un peu différemment d'en période de paix. Et je ne doute pas que de la même façon que nous accélérons sur les personnels soignants, nous serons en capacité d'accélérer plus globalement. C'est en tout cas le sens du message très clair qu'a donné le président de la République.
Nicolas Tinzer, l'exécutif encore et toujours mis en cause dans sa gestion de la crise sanitaire. Il n'y a pas que le RN qui en fasse d'ailleurs une harangue. Est-ce que cela marquera durablement l'action du président et de ses gouvernements ?
Durablement non, mais il est évident qu'il faudra corriger le tir extrêmement vite. C'est vrai que je pense que le gouvernement a pris conscience, le président de la République l'a fait savoir aussi largement, que évidemment il faut absolument accélérer. Il y a des problèmes logistiques très difficiles à régler en France. C'est vrai qu'on a quand même des problèmes de fonctionnement d'un certain nombre de services de l'État, mais c'est vrai que ça ne peut pas durer longtemps, cette incertitude, cette lenteur. Il faut évidemment aller vite. Et probablement s'abstenir d'un certain nombre de précautions ou de pudeurs qui conduisent parfois à retarder un certain nombre de vaccinations.
Aller vite et jouer la transparence sur le vaccin contre le Covid-19, puisque face à un sujet qui divise profondément l'opinion, l'exécutif crée un dispositif de participation citoyenne qui sera mis en place demain. Ce n'est pas la première fois que est fait appel ainsi à la contribution des Français.
Oui, on se demande vraiment à quoi ça sert. On a vraiment l'impression que aujourd'hui, on va par ce biais donner en quelque sorte raison à ceux qui critiquent les experts ou à ceux qui remettent en cause la démocratie représentative. Je pense que ce n'est pas un très bon signal. Un collectif de Français pour traiter des problèmes extrêmement difficiles sur lesquels il y a encore d'ailleurs un certain nombre d'interrogations scientifiques, mais certainement pas la bonne chose. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut vacciner, que le vaccin où les différents vaccins d'ailleurs sont aujourd'hui sûrs, et on ne voit pas exactement ce que ce collectif de Français tiré au sort sans une expérience particulière va pouvoir ajouter de plus, que ce soit évidemment en termes de constats scientifiques, d'évaluation et en termes de préconisations.
Il y a aussi ce sondage Odoxa réalisé pour France Info et Le Figaro qui cette semaine interroge les Français sur leur rapport au vaccin. 58% des Français ne veulent pas se faire vacciner. Pourquoi ce refus ? Parce que 6 sur 10 d'entre eux, pour eux, cette décision est un choix éminemment individuel et personnel plutôt que collectif. Votre commentaire ?
Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il y a depuis malheureusement longtemps en France, et c'est une singularité française, je dirais en tout cas si on prend le nombre de Français vaccins sceptiques, si j'ose dire, il y a vraiment une sorte de complotisme anti-vaccinal qui s'est développé, qui a pris du terrain, qui a été parfois relayé par un certain nombre de personnalités extrémistes, notamment d'ailleurs à l'extrême droite, et je trouve que ça c'est très dangereux. Et quand les Français disent « Ah oui, c'est une décision individuelle », non, Non, ce n'est pas une décision individuelle de se faire vacciner. On l'a vu d'ailleurs pour tous les autres vaccins. C'est une question d'immunité collective. C'est pas seulement se protéger soi-même, c'est quand même d'abord aussi se protéger les autres. C'est éviter que le vaccin circule. Alors, bien sûr, on entend un certain nombre de scientifiques qui disent « Est-ce que quelqu'un de vacciné pourra quand même transmettre le virus ?» Oui, ça, ce sont des questions, effectivement. Mais je pense que cette espèce de mode anti-vaccinal au pays de Pasteur, au pays des Lumières, est quelque chose d'absurde, et je pense qu'il y a eu une irresponsabilité à la fois d'un certain nombre, pardon, cher Philippe Le Caplain, de vos confrères qui ont donné la parole à des anti-vaccins sans aucun fondement scientifique, et une responsabilité également des hommes politiques, évidemment, dans ce scepticisme. Et je pense que c'est très important vraiment d'apporter un démenti à tout ce conspirationnisme anti-vaccinal.
Nicolas Tinzer, cette année 2021, c'est également l'occasion de deux scrutins, les élections régionales et départementales. Deux scrutins initialement prévus en mars 2020, mais qui, en raison de la crise sanitaire, en mars 2021, pardon, seront reportés vraisemblablement au mois de juin. Le RN entend y prendre toute sa place, comme l'explique le bras droit de Marine Le Pen, Jordan Bardella.
Nous allons aux élections régionales dans l'ensemble des 13 régions de France, pour remporter les régions. Il est fort probable que le Rassemblement national remporte une, voire plusieurs régions. En tout cas, nous allons faire en sorte de démontrer aux Français que nous sommes aujourd'hui en capacité de gouverner pendant longtemps. Le Front National a été vu, et a peut-être été vu à tort, comme un parti d'opposition, de contestation. Or, nous sommes un parti de gouvernement. Nous appellerons en tout cas tous les Français à se saisir de ces élections pour s'en servir aussi comme d'un référendum sur la politique qui est conduite par l'exécutif.
Le RN donc en ordre de marche. Les scrutins régionaux et départementaux constituent le dernier rendez-vous électoral avant la présidentielle de 2022. D'ailleurs, plusieurs potentiels candidats de la droite sont en lice. Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, Valérie Pécresse en Île-de-France, Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce une répétition générale avant la présidentielle, Nicolas Tinzer?
J'allais dire oui et non. Oui, dans la mesure où, évidemment, ça permet de mesurer l'état des forces politiques à un moment T, mais non, dans la mesure où, d'abord, ce n'est pas du tout le mode de scrutin, que, deuxièmement, on va voir dans quelles conditions il va se dérouler en juin. Il n'est pas certain que la crise sanitaire soit complètement finie. Et puis, troisièmement, je pense que on va voir effectivement des gens qui vont aussi se déterminer en fonction des enjeux locaux, en fonction de la personnalité de tel ou tel candidat ou candidate. Je crois que c'est quelque chose de très différent. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'on risque de voir une sorte d'amplification du mouvement des municipales, surtout qu'on ne sera pas sorti de la crise, peut-être sanitaire, mais en tout cas pas économique et sociale, et que, de ce point de vue-là, le parti présidentiel, La République En Marche, risque d'être quand même un tout petit peu malmené.
Le vote vert avait marqué cet autre scrutin local qu'est l'élection municipale qui avait lieu au printemps. Les écologistes devraient-ils transformer l'essai au mois de juin ?
Par définition, on n'en sait rien, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a effectivement eu un mouvement vert au municipal. En revanche, on a vu qu'il y a eu quand même un certain nombre de polémiques déjà sur la gestion par Europe Écologie Les Verts d'un certain nombre de ces municipalités conquises, notamment certaines grandes d'entre elles. Bon, on a vu évidemment l'épisode de Marseille, mais il y a eu quand même beaucoup d'autres polémiques sur d'autres municipalités, Bordeaux notamment. Donc on va voir si effectivement les Verts parviennent à conserver, disons, une sorte d'acquis municipal ou non. C'est une vraie incertitude, mais je pense aussi que les Verts aussi sont très divisés et qu'ils n'apparaissent pas encore, je dirais, aux yeux de la plupart des Français comme un parti de gouvernement. Alors là aussi, peut-être que pour des réélections régionales, c'est possible qu'ils conservent cet avantage, mais ça ne dira absolument rien sur la présidentielle de 2022.
Autre chose, les vœux aux Français du président Emmanuel Macron ont été suivis par 17,5 millions de téléspectateurs. Il a cité un certain nombre de Français qui ont été méritants durant la crise du Covid et aussi ces trois militaires tués lundi dernier.
Notre plus grande fierté, ce sont les Françaises et les Français. Vous. Taneri, Dorian et Quentin, militaires morts lundi dernier en opération au Mali. Ils sont des héros de la nation.
Depuis, on a appris la mort dans la région de Ménaka, dans le nord-est du Mali, du sergent Yvonne Huyn et du brigadier Loïc Risser, tous deux issus du 2e régiment de Hussards. Deux décès qui portent à 50 le nombre de Français, soldats français tués au Sahel depuis 2013, dans les opérations Serval puis aujourd'hui Barkhane. Rester ou partir au Sahel, c'est une question qui se pose et qui pourrait devenir un enjeu politique, Nicolas Tinzer.
Oui, c'est un enjeu politique évidemment extrêmement difficile parce que, évidemment, si l'on reste, cela signifie évidemment risquer encore la mort de ces jeunes soldats, effectivement. Hein, plus de 50 ont été tués, vous l'avez rappelé. Et en revanche, si on part, ça veut dire effectivement laisser aussi la main à des groupes djihadistes qui sont quand même très présents dans la région, qui peuvent complètement déstabiliser le continent africain. Hein, et on le voit malheureusement, il y a eu encore aussi des attaques au Niger récemment, etc. C'est un sujet absolument grave. Bon, peut-être qu'il y a des solutions quand même intermédiaires. En tout cas, ça montre effectivement que dans la décision d'un président de la République, quel qu'il soit, c'est vraiment la question de la vie et de la mort qui se pose. Je pense que ça va être effectivement un des enjeux pour 2021, peut-être pas celui qui va être déterminant pour la présidentielle de 2022, mais cela, avec les menaces évidemment qui continuent de venir de la Chine, de la Russie, évidemment du mouvement terroriste, tout cela sera, je crois, une sorte d'arrière-fond extrêmement inquiétant sur un monde qui a déjà vécu effectivement avec le Covid également des années particulièrement difficiles.
Nicolas Tinzer, merci pour ses commentaires et ses analyses. Président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique.